Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue dans Religion du Monde. Le père Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, aurait eu 100 ans cette année. À l'occasion du centenaire de sa naissance, l'ONG du refus de la misère se mobilise. 2017 est aussi le 60e anniversaire de la naissance d'ATD Quart Monde, en 1957, dans un bidonville aux portes de Paris, et c'est le 30e anniversaire de l'instauration de la Journée mondiale du refus de la misère, chaque année le 17 octobre. RFI s'associe à cette campagne internationale dont le coup d'envoi est donné ce week-end à Angers, ville natale de Joseph Wresinski, mais aussi à l'ONU et à Bangui. Pour parler de cet homme hors norme, notre invité Georges-Paul Cuny, qui a signé chez Albin Michel en 2014 une biographie documentée servie par une plume belle et sensible. Le titre, L'homme qui déclara la guerre à la misère. Et cette biographie est préfacée par l'ancien Premier ministre Michel Rocard, décédé l'an passé. Georges-Paul Cuny, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Alors, vous avez été un membre d'ATD Quart Monde et vous avez été un ami de Joseph, du père Joseph Wresinski. Et c'est un portrait tout à fait intime que vous nous livrez dans cette biographie. Alors, vous ouvrez sur sa jeunesse, passée dans la misère, on peut dire extrême, qui est la clé de sa vie et de son action. 1917, c'est la grande guerre et la grande misère pour la famille Wresinski.
Oui, c'est la grande misère pour la famille Wresinski, mais il faut signaler que si les choses avaient tourné normalement, la famille Wresinski ne devait pas tourner dans la misère. Son père était un émigré polonais qui avait été en Espagne, là où il avait rencontré sa femme. Sa femme était fille d'aubergiste, on peut faire pire comme situation. Ils s'étaient mariés et alors ils sont venus en France, vers 1910 je crois. Là, ils ont trouvé une situation, ça s'est pas trop mal passé, jusqu'au jour où la guerre a été déclarée. Et là, ça a été très mal parce que le père était porteur d'un passeport allemand. Ce qui explique que lorsque la guerre a été déclarée en 1914, les autorités françaises s'en sont saisies, ainsi que de toute la famille, pour les enfermer dans ce séminaire qui était reconverti en prison. Les 4 ans de guerre ont été là abominables. Il y a une petite fille était née en 1915 qui est décédée des suites des maladies et puis de la malnutrition. Joseph est né en 1917.
Quand il naît, oui, en fait, il a déjà souffert.
Oui. Il le dira plus tard, l'enfant des misérables souffre dès que sa mère l'attend. Parce que dès que sa mère l'attend, elle est pleine d'angoisse sur le sort futur qui sera livré à son enfant, etc. Donc le père Joseph, né en 1917, ils sont sortis de prison en 1918, lorsque la guerre était finie. Le père a essayé de travailler, il a ouvert une petite horlogerie, mais ça s'est mal passé parce qu'il s'est fait dérober une montre en or qu'on lui avait confiée. Peut-être était-ce une provocation, je ne sais pas. Mais en attendant, il était tellement désolé et tellement honteux de ne pouvoir nourrir sa famille qu'il s'est enfui. Et à ce moment-là, la mère et les deux enfants qui étaient là, Louis et Joseph, ont vécu dans la misère totale, parce que la mère a beaucoup travaillé pour essayer de nourrir sa famille. Ils habitaient un logis qui n'était pas un bon logis, une ancienne forge désaffectée, pas chauffée, avec des courants d'air. La mère a fait des ménages, et puis elle a très vite mis ses enfants au travail pour effectivement rapporter quelque argent à la maison.
Oui, c'est ça. Vous décrivez en fait une femme qui, le soir, ne sait pas forcément ce qu'elle pourra donner à manger ses enfants.
Non, pas du tout.
Et ça, elle dépend de la charité, comme
elle dépend de la charité publique. Et également, elle va demander à Joseph de servir la messe tous les jours au couvent du Bon Pasteur, et donc de se lever à 5h du matin pour la messe de 6h.
Pour quelques sous
et quelques sous. Et Joseph, pendant 10 ans, fera ce déplacement et il dira que c'était très difficile pour lui, très pénible, qu'il en a beaucoup souffert et qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas s'aigrir le cœur et de ne pas injurier Dieu suite à cette grande difficulté. Mais il découvrira aussi au couvent beaucoup de choses qui le marqueront positivement. Il admirera beaucoup la beauté de l'Église, l'élégance des sœurs, leur gentillesse, l'accueil. Quand il arrive là-bas, c'est un havre de paix pour lui. Et ça jouera beaucoup pour lui. Petit enfant, il semble qu'il ait découvert la vie de Dieu de plein pied, si je puis dire, sans les efforts religieux, sans les barrières de moralité,
sans le dogme.
Sans le dogme, etc., qui est pesant, n'est-ce pas? Là, il est entré tout petit dans la vie de Dieu. Après, ça va changer, bien entendu, dès qu'il sera adolescent comme nous, il changera, mais au départ, je pense que ça joue beaucoup. Mais cette expérience de la misère connue et des efforts qu'il a fallu faire dès le début. Il disait, l'enfant des très pauvres n'a jamais d'enfance parce qu'on lui met tout de suite des responsabilités sur le dos. Et il dira plus tard, pour être exact, j'ai fondé le mouvement quand j'avais 5 ans. Alors c'est une parole extraordinaire parce que ça montre que déjà, il a la capacité à cet âge-là de mettre le monde en question. Bien sûr, il n'a pas fondé le mouvement à 5 ans, mais il met le monde en question déjà.
En même temps,
c'est prodigieux.
Ça n'est pas un révolté. C'est ça
non,
il n'est
ça
pas, révolté.
Pas un révolté. Non.
Et de même, il ne pense pas à l'action politique, parce qu'on verra plus tard qu'il va passer quelques mois au Parti communiste et finalement, il préfère au Parti communiste la JOC,
absolument,
la jeunesse ouvrière chrétienne.
Donc, voilà ce qu'on peut dire de son enfance. Pendant 10 ans, c'était la galère.
Oui, pendant 10 ans, la galère, avec une mère en même temps extraordinaire qui, dans un dénuement absolu, croit en ses enfants, croit en leur avenir, et il pourra quand même passer le certificat d'études qu'il aura.
Oui, ça c'est formidable parce qu'effectivement, le professeur ne voulait pas le présenter au certificat d'études, il ne voulait pas faire honte à son école, et la mère, effectivement, met Joseph en candidat libre, et Joseph assumera, ira au front tout seul, vaillamment, et vaincra, puisqu'il aura ce certificat. Et à ce moment-là, la vie va un petit peu changer pour eux, mais il n'oubliera jamais les 10 premières années qu'il a passées là, avec une maman qui n'était jamais joyeuse, dit-il, qui était souvent en prière quand elle n'était pas en pleurs.
En pleurs ou en prière.
En pleurs ou en prière, ou quelquefois les deux à la fois. Enfin, tout le monde disait que ce qui frappait, c'était l'absence de joie familiale. Et de temps en temps, le père revient. Mais le père est violent, le père balouit, le père est colérique. Et un jour, on ne veut pas lui ouvrir au père. C'est terrible, parce qu'il cogne à la porte, il est là, je suis là. Alors Joseph est à la porte, il dit « Maman, on lui ouvre ». Et la maman dit « Non, on ne lui ouvre pas, il va encore me faire un gosse ». Ça, c'est une réponse effroyable. Et Joseph dit quelque chose là-dessus, on le sent qu'il est atteint. Il dit « Non, là, vraiment, c'est affreux, affreux ». Affreux quand de la vie est refusée à ce point-là. Mais le père il envoyait quelquefois des meubles, il envoyait un piano une fois, et puis un violon. Bon, donc il avait aussi un peu le sens de l'art, quoi. Il essayait de faire plaisir, mais ça ne marchait jamais.
Et les voisins disaient, s'ils ont un piano, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'argent.
Ils n'ont pas besoin d'argent. Hein. Donc voilà, alors on a vendu le piano pour effectivement avoir quelquefois des dons. Mais alors, il faut noter aussi que à cette époque-là, le père Joseph a beaucoup souffert de la charité, de ce qu'il appelait la charité, c'est-à-dire celle qui lui donnait des choses.
Et c'est pour ça que plus tard,
la honte.
Plus tard, effectivement, cette notion de charité, non pas qu'il la rejettera, mais en tous les cas, il en donnera une nouvelle définition.
Il dira que la charité, c'est de se donner son être, et non pas de donner seulement son avoir. Ça compte de donner son avoir. Il faut le faire.
Mais il faut l'être et l'avoir.
Mais il faut l'être et l'avoir. Mais il dira aussi des choses formidables, qui la charité nous cernait de toutes parts, et nous y résistions, sans pouvoir toujours nous en défaire. Et ça montre bien à quel point ça leur pesait.
Poursuivre quelques instants encore pour comprendre, parce qu'on ne peut absolument pas saisir l'œuvre immense du père Joseph Wrzesinski si on ne s'attarde pas sur son enfance, sur ses décombres sur lesquels il va se construire. Vous l'écrivez, il se construit sur ces décombres-là.
On se construit à partir de ce qui nous détruit et de ce qui nous dépasse. Il s'est construit sur ce passé parce qu'il ne l'a jamais oublié. Le père Joseph n'a jamais voulu cicatriser le champ de la blessure. Il pensait qu'il fallait la garder ouverte, la blessure. Il faut garder le sang rouge, oxygéné, pas le sang bleu, pour être toujours, comment dirais-je, à la pointe du souvenir de sa douleur et de sa souffrance qui, effectivement, permet de se transcender.
Il avait mauvais caractère ?
Je ne pense pas qu'il avait comme idéal d'avoir le caractère facile. Je crois qu'il avait... Non, le père Joseph est une grande intuition fondée sur un drame et il poursuivra cette intuition toute sa vie. Et ce qui est un peu étrange et même exceptionnel, c'est que ces grandes intuitions reposent sur une valeur éternelle. Et c'est un homme voué à la mort qui est chargé de les mettre sur terre et de les faire vivre. Ça, c'est quelque chose, voyez-vous, qui est rare.
Avec cette immense question, voilà. La misère est une question, non seulement matérielle, bien sûr, mais existentielle.
Non, la misère n'est pas seulement économique, mais métaphysique. Il y a une valeur ajoutée, parce qu'il disait, les hommes sont responsables de la misère, seuls eux peuvent la détruire. Et j'étais qu'à moitié d'accord avec cette phrase, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans la vie qui me dise qu'il voulait la misère. Personne ne veut la misère, y compris les gens qui sont très riches. Tout le monde est contre la misère. Or, elle existe. C'est donc qu'il y a un coefficient ajouté qui vient d'où, je ne sais pas, du malin ou de notre égoïsme en général. Mais il y a un coefficient ajouté qui fait qu'on n'y peut rien, elle existe. Alors Joseph, sa grande mission, c'était de détruire la misère. Il n'avait qu'une idée, mais il s'y accrochait tout le temps. Un peu comme l'abbé Pierre, lui, c'était le logement. Il faut que les gens soient logés, parce qu'à partir du moment où ils seront logés, ils tomberont moins facilement dans la misère. Et Joseph, lui, c'était détruire la misère. C'est son axe, l'axe de sa vie, il tournait autour de ça.
Alors, vous parliez du père Joseph Wrzesinski qui dit « Quand j'avais 5 ans, je suis né ». Il y a une autre naissance, j'allais presque dire une troisième naissance.
Une deuxième naissance.
C'est Noisy.
C'est Noisy.
Noisy le Grand, le grand bidonville.
En 1917, il a eu sa naissance biologique. Et puis il a grandi là-dedans. Mais le 14 juillet 1956, lorsqu'il arrivera au camp de Noisy-le-Grand, sur le conseil de son évêque et d'un de ses amis, l'abbé Bach, vraiment, il sentira qu'il est fait pour ça, que c'est là qu'il a trouvé son être, ce qu'il devait devenir. L'homme promis que chacun porte en lui, il l'a trouvé. C'est une grande grâce. Tout le monde ne trouve pas son homme promis.
Alors, il faut quand même rappeler, effectivement, qu'entre-temps, il est passé par le séminaire. Lui, la vocation, même s'il y a eu des tiraillements...
Il est passé par la JOC, par la Jeunesse Ouvrière Chrétienne.
Puis après, donc, il y a le séminaire. Entre-temps aussi, avant le séminaire, il a été apprenti pâtissier.
Ah oui, ah oui, ça, il aimait beaucoup ça. Oui, il était très fier de son métier.
Il est très fier de son métier.
C'est un métier d'art, et qui était difficile, mais que les conditions ne commençaient à peser que lorsqu'on n'est pas content de son métier ou fier de son métier. Il était très fier de son métier.
Et sa mère était soulagée quand il lui dit qu'il va devenir pâtissier, parce qu'elle lui dit, au moins, tu pourras manger tous les jours.
Oui.
Alors, quand il devient prêtre, à ce moment-là, il va être nommé dans une paroisse pendant 10 ans. Dans l'Aisne, c'est ça ?
Il va d'abord être nommé vicaire dans l'Aisne, à Ternier. Et ensuite, il sera curé de Duisel pendant 5 ans de nouveau. Parce qu'à Ternier, ça ne se passe pas toujours très bien. Il ne se comprend pas très bien avec son curé, qui est un curé très classique.
Les paroissiens non plus ne le comprennent pas très bien non
plus. Et puis, il y a ce phénomène de la grève des cheminots qu'il va soutenir. Et c'est là qu'il s'apercevra que c'est très bien de soutenir les prolétaires, mais que les prolétaires, eux, ne se soucient pas du sous-prolétariat qui est derrière eux et que Joseph connaît. Et donc là, il se dit, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il faut faire quelque chose. Donc, si ça ne colle pas bien à Terni, on le nomme à la mission de France. Là-dessus, il fait dans un voyage en Italie, il rencontre des communistes. Du coup, ce n'est pas bien vu, il est plus ou moins coffré. Donc, on le met à l'écart et son curé lui dit, mon beau Joseph, ta carrière est fichue.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi, quoi?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais ta carrière est fichue, c'est une phrase qui paraît curieuse en église, surtout de la part d'un évêque qui n'est pas comme ça du tout. Donc, on le met curé de Duisel. Et à Duisel, on sent qu'il est content, ça va bien, mais il n'est pas à sa place parce que il ne rencontre plus les gens qui étaient dans son enfance, la misère, etc. Et qu'il a l'impression, sans pouvoir le dire comme ça, qu'il les a trahis.
Donc, quand il arrive dans ce bidonville, aux portes de Paris, le bidonville de Noisy, là, il renoue avec son enfance, et c'est là où sa vocation véritablement naît.
Mais alors, avant d'aller à Noisy, ce qui est curieux, c'est qu'il aura passé 3 jours pour venir d'Uzel à Noisy, à pied, au lieu de prendre ça de chaud, et ces 3 jours, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. C'est son chemin de Damas. Et ce chemin de Damas, il faut savoir que généralement, ne le trouve que ceux qui l'avaient cherché, d'ailleurs.
Alors, à Noisy, le début va être compliqué, assez tendu, il y aura de fortes tensions. Petit à petit, il va faire venir des volontaires, ce qui n'est pas, au début, c'était probablement pas son projet, et petit à petit, ATD Quart-Monde va naître. ATD Quart-Monde, ATD.
Aide à toute détresse.
Aide à toute détresse.
Alors, il faut dire qu'au début, il a choisi absolument de vouloir s'incarner à Noisy, de vouloir habiter Noisy. Alors que les autorités ecclésiales et civiles ne voulaient pas qu'il habite Noisy. Il lui disait, ce n'est pas digne d'un prêtre d'habiter là-dedans. Il a dit, je vais habiter dans le camp, parce que je vais m'incarner dans le camp. Quand on veut sauver les gens, on s'incarne dans le milieu dans lequel ils sont. Il ne faisait là que suivre son Dieu, et que pour lui, il avait l'exemple de Dieu qui, pour sauver les hommes, s'est incarné dans les hommes. Il faut bien comprendre que le père Joseph n'est pas un prêtre social, ce n'est pas un prêtre humanitaire. C'est d'abord un prêtre qui apporte Dieu, et ensuite, ça a eu une influence sociale, effectivement, et humanitaire. Sa volonté d'incarnation a été suivi ensuite par des gens qui venaient à Noisy, qui faisaient des stages pendant l'été, et puis quelques-uns sont restés, voilà.
Alors, parmi ceux qui vont aller à Noisy, il y a un des très proches de Serge Dassault, André Hettès, qui sera d'ailleurs un des présidents d'ATD Quart-Monde, le premier président. Lui, il débarque, il y a un mort, on n'arrive même pas à trouver une sépulture.
11 jours qu'il est mort,
les rats commencent à lui manger
les pieds.
Et lui, il arrive avec une voiture, avec plein de vêtements, etc., etc. Et bon, très clairement, le père Wrzinski lui fait comprendre que ce n'est pas l'urgence.
Non, il lui fait comprendre qu'effectivement, ce qui cherche tout d'abord maintenant, il lui a dit, vous allez essayer de m'aider à faire enterrer un mort qui est là depuis 11 jours sur son chalet et dont personne ne veut s'occuper, ni la mairie, ni l'église, ni personne.
Là, c'est quelle année? Donc, on est en 58, c'est ça? C'est le... un an après?
Oh, oui, c'est en 57-58.
57-58.
Et donc, là, M. Hettès va se débrouiller. Il fera la seule chose qui ouvre toutes les portes et il sortira son carnet de chèques. Et à partir du moment où il le sort, tout va bien. Et l'église et la mairie, tout va bien. On peut organiser des funérailles grandioses et le mort aura eu, à son enterrement, la reconnaissance qui lui a fait défaut pendant la vie.
Et donc, à partir de ce geste-là, d'autres personnes vont venir, il y aura des aides extérieures.
Oui, il y aura des gens qui vont venir, et en particulier, il sera aidé par des familles de la grande bourgeoisie qui se prêteront à donner leurs talents pour aider le père Joseph.
Par exemple,
Madame de Brancion, qui a fait connaître au père Joseph Madame Geneviève Antonos de Gaulle.
La nièce du général,
qui ensuite mettra tous ses talents et toutes ses connaissances au bénéfice du père Joseph, et ça lui permettra de transmettre ses idées sur la destruction de la misère aux autorités politiques qui peuvent l'aider à ce moment-là dans ses démarches.
Alors, on peut dire que le père Wrzinski est devenu un expert de la lutte contre la misère et Michel Rocard, qui est alors ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, va lui commander un rapport.
Oui.
Un rapport qui fera vraiment, vraiment date. Hein,
oui,
qui fera... qui sera même à l'origine du RMI et du RSA.
Oui, ce sera un peu plus tard. Ça,
un peu plus tard, en 88, beaucoup plus tard. François Mitterrand, dans sa campagne, dans son programme de campagne au présidentiel, l'inscrira. Voilà, c'est ça.
Elle a intégré le RMI là-dedans, oui. Mais auparavant, il faut bien voir que le père Joseph... Le mouvement est né d'une expérience de vie, et non pas d'un concept. Une expérience de vie qui a donné naissance à une pensée sur l'homme de la misère et une pensée sur Dieu. Ce sont les trois éléments qui ont fondé le mouvement. Et ce qui est remarquable dans le mouvement également, c'est que le père Joseph, qui n'avait rien à donner, en a fait un mouvement de présence d'abord. La présence auprès de l'être. Et à ce moment-là, quand il voit un très pauvre, il s'intéresse moins à ce dont il manque qu'à ce qu'il est réellement en lui-même. Le père Joseph est le premier homme avoir pu déceler dans un regard de pauvre ce qu'il contenait de vie intérieure. C'est pas donné à tout le monde.
Il a pour vous révolutionné le regard sur la pauvreté.
Il a révolutionné le regard sur la pauvreté. Malraux disait que le grand saint est celui qui change la couleur de la sensibilité chrétienne. On peut dire que le père Joseph, je ne sais pas s'il a changé la couleur de la sensibilité chrétienne, mais certainement celui de la sensibilité civile. Il n'y a pas de doute.
Est-ce que vous pensez que le père Brzezinski, alors on en parle, aurait été pour le revenu universel?
Je ne peux absolument pas répondre à sa place. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'avoir l'expérience que le mouvement fait en ce moment, en tant que chef de file avec d'autres associations, qui est l'expérience Territoire Zéro Chômeur, il s'emploie au contraire à faire en sorte que l'argent disponible soit fait pour faire quelque chose, et non pas pour ne rien faire. Déjà une chose. Et deuxième chose, nous constatons dans cet essai des Territoires Zéro Chômeur qu'il y a énormément de travail. Ça ne manque pas de travail, contrairement à ce qu'on peut dire. Ça ne manque pas. Il y a des tas de choses, des tas de services qui ne sont pas rendus, qui pourraient être rendus. Il y a des tas de choses qui manquent à la vie en société, qui n'ont pas actuellement de valeur convertible au point de vue économique, mais qui doivent quand même être remplies, et qu'on peut remplir avec de l'argent qui actuellement sert à des gens à être payés au chômage, c'est très bien, mais qui sera aussi bien qu'effectivement qu'ils puissent travailler et le faire avec. Moi je trouve que le père Joseph aurait dit, moi, je ne comprends pas qu'on trouve de l'argent pour ne pas faire, quand on n'en trouve pas pour faire, c'est le contraire si vous voulez, c'est pas possible ça. Je ne crois pas qu'il aurait été pour, parce que il était vraiment pour le travail qui structure la personne, qui structure la vie en société. Et s'il cherchait à faire que dans les camps très pauvres qu'il a pu connaître, il cherchait au contraire à faire en sorte que les hommes puissent retravailler, à les amener au stade d'employabilité qui leur permettrait de trouver un emploi. Pas du tout à chercher à augmenter les subventions ou ces choses-là, pas du tout.
En fait, ce que voulait le père Brzezinski, c'était redonner à l'homme une dignité.
Le reconstruire, il disait que la misère abîme les gens, les détruit, les corrode, les ronge, et donc ça les démolit, et que par conséquent, si on veut les reconstruire, il faut de la présence et beaucoup de temps.
Je vous remercie, Georges-Paul Cugny, pour ce portrait du père Joseph Brzezinski, que l'on peut retrouver dans la biographie que vous lui avez consacrée, L'homme qui déclara la guerre à la misère, et une biographie préfacée par Michel Rocard et un livre publié en 2014, donc chez Albin Michel. Dans la deuxième partie de Religion du Monde, après le flash, le comédien Michael Lonsdale nous parlera de sa foi, de son métier de comédien. Or, ce week-end, il est à Angers dans le cadre du centenaire de la naissance du père Joseph Brzezinski. Il participera à une soirée musicale et sur fond de Stabamater de Pergolèse, il sera récitant. Et puis à noter que sur le site du RFI, vous pouvez retrouver les informations sur la campagne 2007 daté des Carmonde. On se retrouve après le flash et on se quitte sur le Stabamater de Pergolèse.
Tout